la verrons dans La Veuve Joyeuse de Franz Léard à la rentrée, à l'Opéra de Paris, tragédienne et diseuse. Véronique Gens pratique aussi le récital avec beaucoup de bonheur, souvent entourée de son amie la pianiste Suzanne Manoff. Et demain, à 20h30, au Bouffe du Nord à Paris, la soprano va proposer une carte blanche autour de la mélodie et de l'opérette. On entendra Henri Duparc, Ernest Chausson, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré, Francis Poulenc, entre autres. Bonjour Véronique Gens.
Bonjour.
Si je vous dis, une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Si je vous dis, pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher?
Oui, on est en plein dedans là, tout le monde passe le bac là.
Le bac philo.
Ouais. On est content que ça soit derrière nous, que nous, on l'ait déjà passé. Ouais. Moi j'avoue que s'il fallait s'y remettre, non, ils ont du mérite les jeunes là.
Bon, dans la famille Gens, quelqu'un passait son bac philo aujourd'hui?
Oui, ma fille passait son bac ce matin. Oui.
Bon, on croise les doigts pour elle.
C'est gentil.
L'envie de ce jeudi, c'est de commencer par écouter Lully, puisque vous chantez dans ce trio d'Attis à suivre avec les Arts Florissants, dirigé par William Christie. C'était hier, 1987. Vos débuts avec les Arts Florissants, hein ?
Absolument, oui, j'étais dans le cœur des Arts Flo et j'avais ce petit solo en plus. Et c'était vraiment une aventure incroyable. C'était la première fois que je gagnais des sous en chantant aussi. Vraiment, c'était mes tout débuts. Et c'était, je crois que je réalisais pas du tout ce qui se passait en fait. C'est venu après.
Alors, bienvenue dans La Récréation.
La Récréation, Vincent Josse, sur France Inter.
La beauté, l'hymen seul, extrait d'Attiste Jean-Baptiste Lully.
La récréation, Vincent Josse.
Véronique Gens, vous écoutiez ça et vous faisiez partie de ce trio avec un sourire non pas nostalgique, mais un sourire doux.
Ah, je suis très touchée de réécouter ce trio. Vraiment, ça me touche beaucoup, ça me bouleverse. C'est vrai que c'était le début de tout et c'est des très beaux souvenirs. Donc avec Isabelle Desrochers et avec Jean-Paul Fouché-Court, moi j'étais la voix du milieu et je crois que c'était Hugo Rennes qui était à la flûte et je revois absolument ma robe. C'était une robe en soie. Il y avait du vert, du rose, du beige. C'était très beau. C'était le début d'une grande, grande, grande aventure. Et j'avoue que je réalisais pas du tout ce qui m'attendait.
Vous sortiez du conservatoire d'Orléans.
À peu près, oui, voilà. J'étais dans la classe d'interprétation de la musique vocale ancienne, ça s'appelait au conservatoire de Paris, dans la classe de William Christie. Et c'est cette année-là où il a fait Attis. Je me souviens, il avait organisé des auditions. Et moi, j'avais tellement de choses à faire, entre les partiels à la fac et tout, j'avais vraiment pas envie de passer ces auditions, j'avais vraiment autre chose à faire. Et finalement, il a beaucoup insisté, donc j'y suis allée, j'ai été prise, c'était Olivier Schnebeli qui nous auditionnait. Enfin, de vous parler de tout ça, voilà, tout ça revient. Et c'est
oui,
vraiment
c'est précis dans votre mémoire.
Oui, c'est très précis, c'est comme si c'était hier, le temps a passé très vite et c'est des très très beaux souvenirs. Et je dois beaucoup à William Christie, je le dis et je le redis, et c'était une grande chance de pouvoir faire partie de ce grand voyage avec Agnès Mellon, avec Howard Crew, Guillemette Lawrence, des gens que j'écoutais sur les disques et que j'étais mais débordée de reconnaissance et de plaisir en écoutant cette musique.
Mais c'est un mot qui vous va bien, je trouve, reconnaissance, parce qu'il m'est déjà arrivé de vous interviewer et vous rendez souvent hommage à finalement des maîtres comme Jean-Claude Malgoire, comme William oui. Christie, tous ces hommes et ces hommes de musique qui vous ont permis de vous élever peut-être aussi.
Absolument, oui, non, je crois pas être quelqu'un d'ingrat ou comme on dit beaucoup dans la musique baroque, ingrat ou ingrate. Non, je crois pas, c'est vrai que je leur dois beaucoup, je le dis, je le redis. Et sans eux, je ne serais pas où je suis maintenant. Et je crois que ce qui manque beaucoup maintenant à tous ces jeunes chanteurs qui arrivent, qui sont très près, qui sont très forts, qui sont archi formés, qui en veulent, qui ont envie d'avancer, c'est que y a personne qui veut leur faire vraiment confiance. Quelqu'un comme William Christie, quand il m'a engagé pour chanter ce trio, j'étais absolument pas prête, j'avais à peine 20 ans, enfin je veux dire, c'était vraiment le début de, et voilà, il a cru en moi, et plus on faisait des reprises, plus je montais en grade, si je puis dire, avec dans des rôles qui étaient tout petits, encore un peu plus grands, encore plus grands, et pour finir avec un rôle vraiment important, et ça, c'est vraiment, la pédagogie, comme tout le monde devrait la suivre, c'est vraiment un grand pédagogue. Et pareil, Jean-Claude Malgoire, dans son atelier lyrique de Tourcoing, fait exactement la même chose. Il fait confiance très tôt à des jeunes chanteurs. J'ai chanté ma première Vitellia là-bas et c'était vraiment, j'étais pas prête du tout. Mais voilà, il fallait que quelqu'un me l'offre pour la première fois. Et maintenant, je reviens de Dresde, je la chantais au Semperoper de Dresde, où je la chante à Vienne. Qui l'eût cru et qui, enfin, Jean-Claude, merci beaucoup aussi. J'ai chanté mon premier Chérubin chez lui aussi. Et je me souviens, j'étais empotée, j'étais grande avec mes grands bras. Mais
comment était la robe si je puis dire, la robe de Chérubin.
Justement, j'avais l'habitude que faire...
Le pantalon et les bottes. Et vous chantez, on va l'écouter, votre voix d'aujourd'hui, celle de 2017. Vous chantez dans un disque qui s'appelle Vision au pluriel, quelques airs d'opéra français entre 1850 et 1950, qui ne sont pas forcément connus du grand public, connus tout court. On commence avec Félicien David. Je vous laisse prononcer le nom de cette œuvre.
C'est La Larouque. La Larouque.
Clarity.
visions au pluriel, ce sont les visions que des tragédiennes ont par rapport à la foi, par rapport à Jésus, par rapport à la Vierge Marie, c'est ça,
Véronique Jans? Oui, c'est pas seulement des choses pieuses aussi, c'est des visions de choses qui, elles sont évidemment toutes désespérées, toutes ces femmes qui chantent et qui ont des visions, elles sont ou dans un état d'extase ou dans un état de désespoir, elles sont souvent effectivement, elles sont pas loin d'un couvent ou elles sont enfermées dans un endroit alors que leur amoureux est ailleurs, enfin voilà, c'est des visions de choses qu'elles aimeraient vivre.
En fait, elles cherchent à sublimer leur vie,
exactement,
un peu terne ou malheureuse.
Voilà, elles sont toutes quand même principalement malheureuses, soyons clairs.
Une soprano est forcément malheureuse, si je puis dire, non pas dans la vie, mais vous avez incarné beaucoup de... peut-être plus de désespoir que de joie de vivre.
C'est vrai. Je pense que c'est ma voix qui veut ça. J'ai une tessiture qui fait que beaucoup de musique a été écrite pour des femmes qui sont dans cet état. Quand ça monte, quand il y a des fioritures, quand c'est gai, c'est pour des sopranos qui montent, qui sont très très aiguës, qui sont très légères, ce qui est pas du tout mon type de voix. Donc je pense que c'est juste un état de fait qu'on écrit pour des voix centrales comme la mienne, des choses plus désespérées sans doute. Oui.
Une voix qui s'est cherchée, est-ce qu'elle s'est trouver. Vous avez toujours dit, j'étais un peu mezzo, j'étais un peu soprano, mais je ne savais pas où j'en étais et ça me déstabilisait, Véronique Jans. Vous en êtes où aujourd'hui ?
C'est vrai que ça a été pendant des années, j'essaie ni soprano, ni mezzo, d'ailleurs c'est toujours le cas, sauf que maintenant j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé une maison et je sais que dans ce répertoire 19e français, beaucoup de voix étaient comme la mienne, c'est ce qu'on appelle maintenant du nom d'une des chanteuses qui s'appelait Cornélie Falcon. Elle a laissé son empreinte vocale, si je puis dire, à ce type de tessiture.
On parle de soprano Falcon.
Voilà, c'est un type de tessiture, c'est une voix très centrale qui peut monter, qui peut descendre, mais qui peut pas rester là-haut, qui peut pas rester en bas. Voilà, qui doit se balader beaucoup.
Et ça, c'est vous aujourd'hui.
Exactement. J'ai mis du temps à comprendre comment je fonctionnais et pourquoi je rentrais pas dans les cases, pourquoi je pouvais pas chanter Traviata alors que je m'annonce soprano, pourquoi je pouvais pas chanter Sesto alors que je m'annonçais mezzo. Donc j'étais vraiment, et d'ailleurs quand j'étais à l'étranger, j'étais souvent annoncée comme mezzo soprano, quand j'étais en France soprano, quand j'étais en Italie, enfin c'était très très confus dans ma tête. Et voilà, j'ai enfin trouvé une famille, j'ai enfin trouvé un nom et je sais que des voix comme la mienne ont existé, existent toujours et que voilà, on va former le club des Soprano Falcon. Il y en a peu, effectivement.
Sans pur et des agneaux.
Ça, c'est une mélodie française, Véronique Jean, c'est extraite de votre avant-dernier disque, Néer. Néer, c'est aussi ce qu'a écrit et ce que vous chantiez Reynaldo Hahn. Je précise que c'est Suzanne Manoff qui vous accompagne au piano. Alors, Reynaldo Hahn, on lui prête toujours finalement une figure légère, alors que ce qu'on écoute là n'est pas léger, c'est doux et mélancolique.
C'est doux et mélancolique, et c'est vraiment ce qu'on adore dans Reynaldo Hahn, c'est toutes ces études latines, en fait. Il y en a toute une série qui ont une ambiance, une atmosphère tellement spéciale. On est loin, effectivement, de ce qu'on connaît de Reynaldo Hahn, les choses beaucoup plus légères, les opérettes et ces choses-là. Et c'est vraiment toujours un grand, grand plaisir de chanter ces études latines avec Suzanne. On se les passe en boucle, on les aime beaucoup et on tourne beaucoup avec ce programme. Et les gens sont toujours très surpris et, effectivement, n'ont pas du tout cette image de Reynaldo Hahn. Oui.
Vous êtes venue avec vos choix aussi, Véronique Jean. C'est un sublime Stefano Landi, c'est un compositeur baroque italien du XVIIe.
Tout à fait, oui, que j'ai très peu chanté en fait, parce que mon passage dans la musique baroque était surtout marqué par la musique française en fait. Donc j'ai très peu chanté d'italien, mais c'est toujours une musique qui me bouleverse et qui me touche profondément.
De Stefano Landi, Canta la Cicaletta.
la récréation sur France Inter.
Porgy Amor, l'air de la comtesse Les Noces de Figaro. Vous fûtes cette comtesse, on vous entendait à l'instant. C'est un petit peu par Les Noces que vous abordez le répertoire mozartien, Véronique Gens.
Oui, effectivement, avec ce premier chérubin dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Claude Malgoire, mais voilà, la comtesse est venue bien après, mais entre les deux, il y a eu surtout cette Donna Elvira de Don Giovanni que j'ai vraiment chanté beaucoup, beaucoup. Et
ça, c'était en Provence en 98 avec Peter Brook.
Exactement, et c'était Abbado qui dirigeait. Voilà, ça a été vraiment un moment très important dans ma carrière. Mais cette comtesse avec René Jacobs aussi, il y a eu un grand retentissement. C'était une comtesse un peu différente. C'était Des Noces de Figaro un peu différentes, évidemment, puisque c'était René Jacobs qui dirigeait. C'était une autre façon de voir les choses par rapport à tout ce qui avait été enregistré jusqu'à ce moment-là. Et c'était très, très intéressant. Une belle aventure, vraiment.
Et cette école du baroque qui fut la vôtre, elle a servi la mozartienne en devenir ?
Bien sûr, puisque c'était un développement assez naturel de passer de la musique baroque à Mozart. C'était dans la continuité du temps et ma voix avait besoin de se développer, tout simplement, ma tête aussi, et j'étais contente d'aller vers autre chose. Mais je pense que quand on a chanté beaucoup de musique ancienne et qu'on a eu cette rigueur de la musique ancienne, cette importance du texte, on n'aborde pas le répertoire qui vient après de la même manière. On vient d'ailleurs, quoi. Et on reconnaît, je trouve, tout de suite, quand je suis sur scène partout un peu dans le monde avec des chanteurs classiques, ou avec, classiques entre guillemets, ou avec des chanteurs qui viennent de ce monde baroque, on se retrouve tout de suite, quoi. On a une façon différente de voir les choses. Voilà, je peux pas le dire autrement.
Ouais. Je parlais de votre valise de disques, c'est un peu excessif. Vous êtes venu avec des choix musicaux et notamment avec un Cantaloube, Joseph Cantaloube. Quel est votre choix précis?
J'aime beaucoup Cantaloube. J'adore ces chants d'Auvergne. Je trouve que c'est une musique. Je suis auvergnate d'origine, donc vraiment cette musique, comme je dis toujours, cette musique sent le Saint-Nectaire. Elle me rappelle tellement d'images et quand j'écoute cette musique, ça me touche beaucoup et que des beaux souvenirs, vraiment. Et que des
début du XXe siècle, les années 20 à peu près.
Tout à fait, oui. Et surtout des chansons populaires que Cantaloube a mis en musique, a orchestré plutôt avec des orchestrations très compliquées, très sophistiquées. On se dit, ouais, les Cantaloube, c'est très facile. Non. Effectivement, la mélodie est facile. C'est encore une fois une petite chanson. Mais tout ce qu'il a rajouté autour, c'est formidable. Et ça en devient quelque chose de très précieux et de très sophistiqué.
Eh bien, on écoute Kirite Kanawa chanter du Cantaloube.
Création, Journal de la musique.
Une nouveauté du duo Sabil. C'est un duo composé du compositeur Ahmad Al-Khatib qui joue de l'oud et du percussionniste Youssef Harbeish. Duo créé en 2011 avec l'envie de multiplier les projets. Les deux hommes ont enregistré par exemple un disque avec le quatuor Bella, c'était en 2012. Et leur troisième opus s'intitule Zabad, note cristalline du bouzouk, clochette, cymbale. Zabad offre des sons d'une très grande légèreté. Ce nouveau disque du duo Sabil paraît chez Harmonia Mundi. Thank you.
Récréation, Vincent Josse sur France Inter.
De César Franck, Rédemption, le flot se lève. L'orchestre de la radio de Munich, dirigé par un Français, Hervé Niquet. Alors Hervé Niquet, si je puis me permettre, vieux camarade, vous étiez lui en culotte courte et vous, en, vous aviez des nattes à l'époque.
À peu près, oui.
On aux arts florissants.
Voilà, c'est ça. C'était quand, ce trio d'Atis qu'on écoutait tout à l'heure, Hervé était dans le cœur d'Atis aussi.
Les années 80.
Voilà, c'est ça. Et je garderai un souvenir vraiment... Hervé Niquet avec une perruque 17e et une mouche sur le côté, c'était quand même quelque chose. On était tous très, très, très grimés comme ça. Mais c'est, voilà, Hervé Niquet qui dirige cet orchestre, parce que pour cette musique romantique française, comme vous savez, les orchestres étaient énormes. Il y avait de plus en plus de... On voulait en mettre plein la vue, donc des orchestres qui étaient de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Donc c'est pour une question d'argent aussi, que c'était très compliqué en France de trouver un orchestre qui... puisse supporter un effectif comme celui-ci. Et comme vous savez, avec le Palazzetto Bruzane, qui est vraiment qui m'a beaucoup aidé à faire ce disque, puisque c'est eux qui ont trouvé toute cette musique.
Je précise que c'est un centre de musique romantique qui est basé à Venise, voilà. Et qui fait aussi un festival en France, notamment au Bouffe du Nord en ce moment.
Voilà, exactement. Il y a quelques jours, c'était l'ouverture du festival au Théâtre des Champs-Élysées avec cette fameuse Reine de Chypre, et puis il y a eu beaucoup de concerts entre-temps. Et moi, je clôt le festival avec mon récital. Mais ce Palazzetto fait la mission du Palazzetto et de réhabiliter, si je puis dire, la musique française du 19e, cette musique romantique qu'on a complètement oubliée, qui dort dans des tiroirs depuis si longtemps.
Et vous travaillez souvent avec eux, hein ?
Oui, en ce moment, je travaille beaucoup avec eux. Je leur dois beaucoup parce que c'est eux qui m'ont aidé réalisé que j'étais faite pour cette musique, que ma voix était parfaite pour ce genre de musique, ma tessiture est parfaite pour ça. Et on a cherché ensemble beaucoup toute cette musique pour ce disque des Visions. Et il a fallu faire un choix parce qu'il y a tellement de musique formidable, ça a été très compliqué. Mais un travail de recherche exactement comme il y a quelques années, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, le Centre de musique baroque de Versailles faisait ce même type de recherche. On ressortait de la musique qui n'avait pas été jouée ni chantée pendant maintenant 3 siècles et on l'enregistrait. Il y avait vraiment un essor énorme pour cette musique à ce moment-là. Et c'est exactement la même démarche qui se passe maintenant avec ce palazzetto, ce précieux palazzetto et tous les gens qui vont avec et cette énergie qu'ils dépensent pour cette musique française. Vraiment, ça vaut la peine et c'est formidable. Je leur baisse mon chapeau, vraiment.
Alors, on a beaucoup évoqué William Christie aujourd'hui avec Les Arts Florissants. Eh bien, on va continuer d'écouter Les Arts Florissants. C'est votre troisième choix, Véronique Jans, et c'est Monteverdi. Comment réagissez-vous quand vous écoutez ça, Véronique Jans?
J'adore, c'est magnifique. Et toutes ces voix que je reconnais toutes individuellement, il y a Dominique Wyss, il y a Jill Feldman, Guillemette Laurence, Michel Laplénie, enfin on pourrait tous les nommer. C'est vraiment la grande époque des arts flots et c'est vraiment... c'était des modèles vraiment pour moi. Je les ai tellement écoutés, tous ces gens, et j'ai une reconnaissance infinie pour tout ce qu'ils m'ont appris.
Vous avez même reçu un texto... Oui. D'une des chanteuses de l'époque, là, pendant l'émission.
Oui, Cécile.
Ça veut dire que vous avez formé une famille ou c'est un mot excessif?
C'était pas vraiment une famille parce que c'était quand même une grande famille, mais c'était un milieu qui était quand même très fermé, très rassurant pour moi qui arrivais d'Orléans où je connaissais personne à Paris, me retrouver avec des gens qui étaient bienveillants, qui étaient encourageants, qui étaient gentils, c'était très agréable. Il y avait quelque chose de confortable et de rassurant. Vraiment, maintenant, je pense que les jeunes chanteurs qui arrivent et qui débutent une carrière, c'est bien plus difficile, non seulement parce que la concurrence est bien plus grande, mais aussi parce que c'est la jungle, parce que tout le monde se bagarre pour avoir une petite place au soleil, ce qui est de bonne guerre, honnêtement. Mais à cette époque-là, c'était très différent, je crois, et Non, pas une nostalgie, parce que ça serait stupide de dire ça.
Parce que vous vivez plein de choses.
Voilà, je vis plein de choses. Mais c'est vrai que quand j'écoute cette musique et quand je repense à cette époque et quand je repense à tous ces gens, c'est vraiment que des choses agréables. Et j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Mmh. Ça me touche beaucoup, vraiment.
Bon, on vient vous applaudir demain, si on le peut, au Bouffe du Nord. C'est
oui,
à Paris.
Oui, oui, oui.
À 20h30, vous chanterez de la mélodie française avec votre amie Suzanne Manoff.
Suzanne, oui. Suzanne.
Pianiste américaine qui était il n'y a pas si longtemps que ça dans la récréation. Et puis on va se quitter avec un extrait de votre disque paru donc chez Alpha. Vision au pluriel, et c'est Massenet qui a vu la Vierge, on peut dire.
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
On vous souhaite une bonne suite, Véronique Gens.
Merci beaucoup, merci.
Besoin de prière, et d'espère, tout en
Vous voulez encore de la musique? Ben oui, bien sûr, puisque c'est l'heure du choix des auditeurs. C'est une auditrice qui nous demande, Christine Jacou. Iliane Canizares, une jeune chanteuse, écrit Christine, une jeune chanteuse et violoniste cubaine et suisse. C'est tout simplement magnifique, dit-elle. Bonjour Charline Vanhoenacker.
Bonjour Vincent Jeusse.
Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste?
Ah, c'est un sujet du bac, paraît-il.
Oui.
Oui. Bon, faites ce que vous voulez, moi.
J'ai embêté tout le monde aujourd'hui avec ce sujet, notamment les auditeurs. Vous aviez réussi, vous, votre bac philo?
Mais on n'a pas de bac en Belgique.
Ah oui, je suis bête.
Bon, pas besoin, voilà.
Non, vous êtes de toute façon philosophe.
On essaye chaque jour, effectivement.
Avec qui aujourd'hui la philosophie?
Avec Jane Birkin.
Oh, eh bien, proposez-lui...
Vous êtes jaloux, hein, je sais.
Je sais, mais je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Proposez-lui une œuvre d'art, est-elle nécessairement belle?
Très bien.
Et je vous souhaite une bonne émission avec Jane Birkin.
Merci Vincent Jeusse.